Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au Nord Kivu, plusieurs écoles de la ville de Goma et de Sake ont enregistré une déperdition de 28% d'élèves à l'espace d'une année. C'est ce que révèle une enquête de l'ONG Secours aux Vulnérables. Son coordonnateur appelle les autorités et les partenaires à une intervention urgente. 3 personnes blessées, 15 maisons détruites et 2 ponts emportés par les eaux des ruissellements. Tel est le bilan d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'ensemble du territoire des Fizi au sud Kivu le jeudi 26 février 2026. Le forum provincial sur la problématique des ADEF a appelé le gouvernement, ses partenaires et la communauté internationale notamment à une approche globale et intégrée contre les ADEF alliés à l'État islamique et actifs en Ituri et au Nord Kivu. Comment traduire en action concrète les recommandations issues de ce forum? Pour en parler, nous recevons Jean-Baptiste Kasekwa, vice-président de l'ICID, qui a participé à ces travaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Au Nord Kivu, 14 écoles de Goma et de Sake ont enregistré une déperdition de plus de 2160 élèves en l'espace d'une année. C'est ce que révèle une enquête de l'ONG Secours aux Vulnérables SAV. Selon cette organisation, les effectifs cumulés, qui étaient de près de 9970 élèves en décembre 2024, sont descendus à environ 7680 en décembre 2025, soit une baisse de plus de 28%. Les coordonnateurs de SAV s'est dit également préoccupé par la situation de plus de 1000 enfants encore inscrits mais considérés comme vulnérables. Il appelle les autorités et les partenaires à une intervention urgente. Écoutons Espoir Kikuni, coordonnateur de SAV, au micro de Bernardin Nyangi.
De 2162 élèves, 1141 filles qui ont abandonné et 1021 garçons, équivalent à 47,2%. Aussi, au total, nous avions identifié 1023 enfants orphelins et vulnérables. Parmi les facteurs qui a occasionné cette déperdition, il y a eu d'abord manque de fournitures scolaires. Il y a aussi des difficultés de paiement des frais scolaires. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu dans la ville de Goma et ses environs les retours de la prime aux écoles primaires. Il y a eu aussi les problèmes de l'insécurité alimentaire. Un enfant ne peut pas venir à l'école et si il a passé 2 ou 3 jours sans mettre quelque chose sous la dent. Nous avions lancé déjà un SOS aux personnes qui peuvent être touchées par cette situation de s'impliquer pour trouver solution à ces problèmes. Et si on ne le fait pas, c'est une bombe à retardement dans la région. Le banditisme, le cas de violence, mariage forcé, si vous pouvez passer même dans les artères, maintenant ici, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus d'enfants qui traînent déjà dans la rue.
Rappelons que selon un rapport humanitaire publié début février, plus de 431 000 enfants sont actuellement hors du système scolaire sur toute la province du Nord Kivu et 1142 écoles y demeurent fermées. Éducation toujours. Dans la province du Maniema, un malaise grandit au sein de l'inspection provinciale de la province éducationnelle Maniema 1. Les inspecteurs d'État ainsi que les agents administratifs d'appointe dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leur mission. Dans une déclaration faite ce jeudi 26 février, à l'issue de leur assemblée générale, ils pointent du doigt un probable détournement d'une grande partie des frais de fonctionnement destinés aux poules primaires. Selon eux, alors que les listings officiels mentionnent 600 000 francs congolais, les poules ne recevraient en réalité que 175 000 francs congolais. Après plusieurs démarches restées sans réponse, ces inspecteurs appellent désormais à la vigilance du chef de l'État afin que lumière soit faite sur cette situation et que les fonds alloués parviennent réellement à leurs bénéficiaires. On écoute à présent leur secrétaire provincial Zachary Bafouafoua Beya au micro de Florence Kizalunga.
Dans nos analyses, nous avons relevé le fait que les poules primaires dans la province éducationnelle Maniema 1, ces poules bénéficient de frais de fonctionnement de l'ordre de 175 000 francs par mois, alors que sur listing, c'est prévu 600 000 francs. Donc, il y a présumé détournement de 425 000 francs par mois. Et cela depuis juillet 2023 jusqu'aujourd'hui. Nous ne savons pas la destination de ces frais-là. Au-delà de ça, il y a la prime pour fonction spéciale allouée à tous les inspecteurs et agents administratifs d'appoint, nous n'en avons pas jusque maintenant. Dans l'itinérance, nous manquons les moyens de transport, nous manquons les outils informatiques pour nous permettre de produire nos rapports d'inspection. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, qui prône sur la qualité de l'enseignement, de veiller sur la vie de l'inspecteur. Et là, il doit voir comment diligenter une enquête pour vérifier les présumés détournements que nous venons de dénoncer, mais aussi, il doit regarder comment aussi payer la prime pour fonction spéciale à tous les inspecteurs dans les 54 provinces éducationnelles non encore bénéficiaires.
La pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'ensemble du territoire de Fizilé jeudi 26 février 2026 a causé d'énormes dégâts humains et matériels dans les secteurs de Moutambala, village Moukera. Le bilan provisoire dressé par l'administrateur du territoire fait état de 3 personnes blessées, 15 maisons détruites et 2 ponts emportés par les eaux de ruissellement. Sami Kalonji Badibanga attribue cette catastrophe naturelle à la destruction abusive de l'écosystème, notamment l'abattage désordonné des arbres et la déstabilisation du sol suite aux activités d'exploitation artisanale de minerais en amont et en aval des collines. Sami Badibanga joint par Jean Kassami.
Au village Moukera, secteur de Moutambala, groupement de Bachimoukouma Nord, un vent violent a détruit 15 maisons d'habitation et blessant 3 personnes. C'est jeudi 26 février 2026. Les territoires de Fizi payent aujourd'hui les conséquences de sa destruction de l'environnement après avoir emporté la tâture du bâtiment administratif et causant d'énormes dégâts matériels en date du 19 février 2026, laissant les services publics de l'État prestant à ciel ouvert. La pluie a de nouveau causé d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines. Le 23 février 2026, 3 personnes ont trouvé la mort suite à l'effondrement des ponts dans les secteurs d'Enkandja, groupement de Baskasilo, au village Misisi, sur la rivière Kimbi, le pont Kimbi Mabash et le pont Michengele reliant la province du Sud-Kivu à la province du Maniema ont été emportés par les eaux de ruissellement.
À Banounouville, pendant ces temps, les travaux de réhabilitation de l'aéroport national avancent bien selon la régie des voies aériennes RVA. Selon le commandant de la RVA Bandundu, Fils Mouima, la piste sera opérationnelle d'ici quelques semaines. Elle devra accueillir les délégations des gouverneurs de province attendues pour la 13e conférence des gouverneurs prévue du 24 au 28 mars. Fils Mouima apporte d'autres précisions sur l'état d'avancement des travaux au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Nous sommes en plein chantier. Il y a Safrimax qui a gagné les marchés, qui sont déjà sur la piste, en train d'avancer avec les travaux de réhabilitation de la piste et des aires de stationnement. Il y a l'aérogare que vous pouvez constater. Je vous invite, dans une semaine, vous allez voir une nouvelle robe de l'aérogare. Et on est en train d'amener la sécurité à bonne et due forme et la sécurité comme il se doit. Et que la population de Bandundu soit assurée et qu'il protège aussi les infrastructures actuelles. Et dans moins d'un mois avant la 13e conférence, je vous dit que non, je vous assure que non, il y a le balisage qui seront ici et ils peuvent assister aussi des vols de nuit qu'ils vont admirer.
À Kananga, dans le Kasaï central, le ministre national de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Moindo Nzangi, est en mission officielle depuis ce jeudi. Objectif, évaluer l'avancement des projets agricoles en cours dans la province et lancer la campagne de cultures pérennes, ces cultures capables de produire pendant plusieurs années sans nécessité de replantation. Le ministre réaffirme la volonté du gouvernement congolais de faire de l'agriculture l'un des piliers du développement national, un secteur stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire et stimuler l'économie rurale. Je vous propose d'écouter à présent Moindo Nzangi, ministre national de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, au micro d'André Katende Ngalamurume.
Je suis arrivé pour évaluer toutes les activités d'accompagnement du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire avec tous les projets. Je suis venu spécialement pour lancer ici dans l'espace Grand Kassai cette grande campagne de produits pérennes. Nous allons installer dans chaque territoire et pépinières communautaires de 250 000 plantilles. Déjà pour 3-4 territoires avec des pépiniéristes qui vont former les gens dans les villages. Je suis venu aussi pour voir l'Ubondaï. Comme vous le savez, le chef de l'État avait mis beaucoup d'argent dans ce projet pour avoir des infrastructures de parcs agro-industriel dans le territoire du Baya. Il se peut que depuis que cela a été fait, les activités ne se déroulent pas telles que nous le souhaitons. Donc je vais aller avec les autorités provinciales à l'Ubondaï pour que nous puissions prendre les dispositions utiles sur le terrain et voir comment nous pouvons relancer ces grands projets. C'est la revanche du sol sur le sous-sol que le chef de l'État a prôné et nous avons dit nous y allons avec une révolution agricole agressive pour que tout et chacun, partout où il se trouve, sache qu'on ne peut pas développer ce pays si on n'aime pas l'agriculture au premier plan.
Malgré son interdiction par la loi, le phénomène usuraire, communément appelé banque Lambert, continue de prospérer en République démocratique du Congo. Selon certaines personnes qui s'y livrent, cette pratique s'explique notamment par la difficulté d'accéder à un crédit bancaire et par le manque de culture financière dans les quotidiens des Congolais. Selon l'économiste Lems Kamwanya, l'État ne devrait pas seulement légiférer, mais aussi veiller à l'application stricte de la loi afin de lutter efficacement contre les usuriers. Les détails avec John Chibwabwa.
Prêter de l'argent à des taux d'intérêt très élevés est monnaie courante en RDC. Faute d'alternative, de nombreuses personnes se tournent vers ce qu'on appelle communément la banque Lambert lorsqu'une urgence financière survient.
Il m'arrive de recourir à la banque Lambert dans des urgences. J'avais pris 100 dollars avec intérêt de 50%, donc à remettre 150 dollars.
Pour les usuriers, la banque Lambert est présentée comme une forme d'entraide.
Si on te prête 50 dollars, après un mois, tu vas rembourser 75 dollars. On s'entraide. Lorsque moi je prête à quelqu'un, c'est pour que je gagne un petit rien. Lui m'aide avec mon pourcentage et moi je l'aide aussi en retour parce qu'il a une urgence.
De son côté, l'économiste Lens Kamwanya propose plusieurs pistes de solutions pour endiguer ces phénomènes.
Qu'on installe ce qu'on appelle des banques de proximité, qu'on puisse créer davantage des institutions de microfinance. La deuxième piste de solution, c'est arriver à éduquer la population pour que la population développe sa culture bancaire. Et enfin, l'État doit mettre en place des mécanismes pour contrôler et sanctionner les personnes qui opèrent à marge de la loi.
Selon la Banque mondiale, la RDC ne compte qu'environ 10% des personnes disposant d'un compte bancaire sur une population estimée à 112 millions d'habitants.
Ce journal se poursuit dans l'espace Grand Kassai. La régie des eaux Kabinda vient de recevoir deux groupes électrogènes neufs accompagnés de l'ensemble de leurs accessoires. Ce matériel envoyé par la direction générale de la régie des eaux vise à renforcer significativement la production et la distribution d'eau potable dans la ville de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Selon les responsables techniques, cette dotation permettra d'améliorer sensiblement la capacité des pompages et, par conséquent, la régularité de la desserte en eau. Le chef du centre secondaire, Abakouk Kiabu Mulenda, salue cet appui qualifié de déterminant pour répondre aux besoins croissants de la population. Il exprime la gratitude de son centre envers la hiérarchie nationale et rassure que l'équipe locale est prête à optimiser l'utilisation de ces nouveaux matériels. On écoute Abakouk Kiabu Mulenda dans cet extrait recueilli par Isaboto Yombwe, correspondant des Radio Veritas à Kabinda.
Il n'y a pas deux jours que notre DG de la Régie des Eaux, David Chulumba Mutombo, venait de nous envoyer deux groupes électropompes pour avoir au moins des équipements, des réserves bien sûr, pour les forages. La fois passée, il nous avait envoyé un nouveau groupe. Et présentement, il vient de vous envoyer des groupes électropompes avec tous les accessoires possibles. Au cas où il y a une panne, la population ne peut pas s'inquiéter. Deuxième information, nous venions de faire des analyses bactériologiques de l'eau. Et on l'a fait sur quelques bonnes fontaines et sur quelques branchements pour analyser notre eau. Et les résultats attestent que nous donnons l'eau de bonne qualité à notre population.
Abakouk Kiabu Mulenda invite enfin les abonnés à s'acquitter régulièrement de leurs factures afin de garantir la viabilité du service. Il rappelle que des mesures de coupure pourront être appliquées aux abonnés insolvables conformément à la réglementation en vigueur. Au Nord-Kivu, la situation reste extrêmement tendue dans une vaste partie du territoire de Massissi. Selon plusieurs sources locales, des violents combats opposent depuis tôt ce vendredi les rebelles de l'FCM23 aux miliciens Wazalendo sur l'axe Kinyumba. Elle rapporte également que la soirée de jeudi, un engin a explosé au centre de Niabiondo, faisant au moins 3 blessés civils. Les détails avec vous, grâce à Mzati Masanzi.
Depuis l'aube, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues autour du village de Kinyumba, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Niabiondo, dans le secteur Osobanyongo. D'après nos sources, il s'agirait d'une attaque lancée par les combattants de l'AFC M23 contre des positions tenues par les miliciens Wazalendo. Ces hostilités interviennent après une journée déjà marquée par de fortes tensions sur l'axe Mahanga, quelques kilomètres plus au sud de Niabiondo. Là aussi, des affrontements ont été signalés autour de la colline Kilongo, près de Buhimba, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Et vers 18h, jeudi, un engin militaire a explosé dans le quartier Isiro, au centre de Niabiondo, blessant 3 civils. Depuis une dizaine de jours, les combats s'intensifient entre des groupes Wazalendo alliés au FRDC et les rebelles de l'AFC M23 dans plusieurs zones du territoire de Massissi. Une situation qui aggrave la crise sécuritaire et humanitaire, particulièrement dans les secteurs Osobanyungu et Katoi, ainsi que dans la chefferie de Bahoundé.
Province du Haut-Katanga, avant d'aller plus loin, poursuite ce vendredi à la cour militaire de l'ex-Katanga, des audiences en chambre foraine à Likasi en procédure de flagrance. Sept militaires des FARDC sont poursuivis pour vol qualifié et violation des consignes. Le ministère public accuse ces militaires d'avoir mené une perquisition irrégulière au domicile d'un ressortissant chinois à Likasi. Le point avec Paulin Munanga.
La première audience de ce jeudi a été consacrée à l'identification des prévenus. Dans la présentation des faits, le ministère public révèle que les prévenus ont mené une perquisition irrégulière dans la nuit de mardi dernier au domicile d'un ressortissant chinois au quartier Zout dans la ville de Likasi. Il précise qu'au cours de cette opération, une importante somme d'argent a été emportée par les militaires au domicile du chinois. Devant la cour, l'organe de la loi a présenté des pièces à conviction composées notamment d'une somme de 50 000 $ américains et d'une autre somme de 13 000 $ américains ainsi que des milliers de francs congolais. Le ministère public précise que la réquisition de l'information qui a permis cette perquisition a été signée par le sous-lieutenant et inspecteur judiciaire Roland Katumbay qui est stagiaire à l'auditorat militaire des garnisons de Lubumbashi. Dans cette réquisition, le sous-lieutenant a mentionné que son cabinet de service a reçu l'information des sources qui ont requis l'anonymat selon laquelle un sujet chinois est détenteur d'une arme à feu non encore identifiée, indique le ministère public. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Kenya a officiellement lancé jeudi 26 février 2026 l'utilisation d'un nouveau traitement préventif contre le VIH, le lenacapavir, injectable deux fois par an et considéré comme un progrès immense par rapport au traitement nécessitant la prise quotidienne d'une pilule. Dans ce pays, la prévalence du VIH est d'environ 3,7% à l'échelle nationale mais atteint 10% dans certaines régions. Ce traitement recommandé par l'OMS en option supplémentaire des PrEP était donc très attendu sur place. 15 contrées ont été sélectionnées en priorité pour la première phase.
L'invité.
Le forum provincial sur la problématique des ADF qui vient de se clôturer à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, a appelé le gouvernement, ses partenaires et la communauté internationale notamment à une approche globale et intégrée contre les ADF alliés à l'État islamique et actifs en Ituri et au Nord Kivu. Comment traduire en action concrète les recommandations issues de ce forum? Pour en parler, nous recevons Jean-Baptiste Kasekwa, vice-président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, qui a participé à ces travaux. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Jean-Baptiste Kasekwa, bonjour.
Bonjour, merci.
En quoi les recommandations ici de ces forums peuvent-elles réellement changer la dynamique de la lutte contre les ADF sur le terrain, notamment pour les populations de Beni, Butembo, Lubero et même de l'Ituri?
Il faut que les services de sécurité congolais
apprennent à écouter avec beaucoup d'intérêt ce que dit la population. Il faut rétablir la confiance entre les populations et nos services de défense et de sécurité. Les populations ont dit connaître bien des choses, mais elles se disent ne pas être écoutées. Deuxièmement, le gouvernement central, à partir de Kinshasa, doit accorder la même attention à la crise des ZADF au même titre que la crise du M23. Raison pour laquelle nous allons nous impliquer. Il faut un plan national d'éradication des ZADF. Que ce plan-là soit établi le plus rapidement possible, qu'un forum national se tienne à Kinshasa autour de la question des ZADF. Nous disons trop c'est trop, nous n'allons plus supporter que l'on gère la question des ZADF comme à tâtonnant.
L'opposition a souvent dénoncé l'écart entre les engagements pris et leur mise en œuvre. Qu'est-ce qui cette fois-ci devrait être fait différemment pour éviter que les résolutions de ces forums ne restent lettre morte?
Nous allons remobiliser tous les députés nationaux, tous les sénateurs pour engager leurs responsabilités, mais il faut redonner la parole aux populations. L'état de siège est venu museler ces populations-là. Or, tant que les populations ne s'expriment pas, Kinshasa considère que la crise des ZADF est à 2000 kilomètres. Pour que les recommandations ne restent pas lettre morte, nous devons redonner la parole à la population, à la société civile, mais également nous, au niveau national, nous allons nous remobiliser davantage que le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Les militaires, parfois, Synergie, UPDF, MONUSCO, font leur travail, mais même les éléments de la police manquent, même les administrations territoriales sont abandonnées. Et donc, il y a des questions pour lesquelles nous serons sans complaisance vis-à-vis du gouvernement central.
Tout le monde qui est intervenu dans ce forum a insisté sur une chose, il faut cette fois-ci une solution globale.
Absolument, non seulement une solution globale, mais j'ai noté avec beaucoup d'intérêt des populations qui gardent les souvenirs de l'engagement de feu général Baouma. Ce témoignage démontre que les FADC sont capables d'éradiquer ce phénomène à peu de temps avec l'appui de ses partenaires. Le problème réside au niveau du manque d'engagement, manque de volonté du gouvernement. On prononce des discours, on donne des promesses et finalement, arrivé au pouvoir à Kinshasa, on oublie tout. Donc nous allons interpeller de nouveau l'attention de l'exécutif et ensemble avec la remobilisation de la population qui, à partir de ce forum, voit son intérêt ressuscité autour de ce phénomène-là, nous pensons pouvoir faire bouger les choses.
Certains intervenants ont insisté sur le fait que la guerre contre les ZADF, aujourd'hui affiliée au groupe terroriste de l'État islamique, la RDC ne peut pas la gagner seule.
C'est vrai, et je salue l'engagement du partenaire. Mais que ce soit la MONUSCO, que ce soit l'UPDF, ou même l'armée étrangère, l'OTAN, aucune armée étrangère ne peut en elle seule résoudre le problème si, à la base, nous ne donnons pas au FADC, à la PNC, au service de renseignement congolais, la priorité des priorités. Aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est UPDF qui passe à l'avant-plan, c'est la MONUSCO qui doit passer à l'avant-plan, et que les FADC viennent en appui. Non, nous ne gagnerons jamais cette guerre si nous ne faisons pas sauter que les FADC passent à la première place et les autres viennent en appui. Et cela dépend de l'engagement du politique que nous sommes.
Jean-Baptiste Kasekwa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Jean-Baptiste Kasekwa qui s'entretenait avec Martial Papimukeba et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota-Chivueta, supervisée par Lévin Mbuinga Vubu et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre site internet www.radiocapi.net.